5h sur Europe 1.
On est largement en mesure d'augmenter notre force de frappe pour taper au portefeuille. Vous savez, on dit souvent qu'Al Capone est tombé avec l'argent, il va falloir faire tomber aussi les trafiquants sur des dossiers financiers.
Comme les syndicats de police, Emmanuel Macron veut passer à la vitesse supérieure contre le trafic de drogue. Interview du président dans le Figaro ce matin. C'est encore la filière la plus demandée cette année sur Parcoursup. Les études de soins infirmiers, la pandémie n'a pas découragé les vocations. Et puis le soulagement de savoir la petite Mia saine et sauve après 5 jours de traque de ses ravisseurs et plus de 200 gendarmes mobilisés.
À suivre, les sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs. Nous serons en Normandie chez notre éleveuse. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Je me bats pour le droit à la vie paisible. Cette phrase, entre guillemets, est à la une du Figaro ce matin sur une photo d'Emmanuel Macron dans son bureau à l'Élysée. À tout juste un an du premier tour de la présidentielle, le président esquisse une forme de bilan et de promesse en même temps sur le thème de la sécurité. Hélène Terzian.
Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Dans les colonnes du Figaro, Emmanuel Macron l'assure, l'objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires fixés au début du quinquennat sera tenu. Plus de 6 200 ont déjà été recrutés, ils seront 2 000 cette année. Le président défend son bilan, plus de moyens aux forces de l'ordre pour mieux quadriller le territoire. Tous ont le droit de prétendre à une vie calme où qu'ils habitent, insiste le chef de l'État. Je me bats pour le droit à la vie paisible. Pour cela, il fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la mère des batailles. Ne laisser aucun répit aux trafiquants, les harceler, une stratégie qu'il estime payante. Chaque jour, nous fermons un point de deal, se réjouit-il. Le président cible aussi le petit deal, la consommation. Dans le Figaro, le chef de l'État dit d'ailleurs vouloir lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et ses effets délétères. On se roule un joint dans son salon et à la fin, dit-il, on alimente la plus importante des sources d'insécurité.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Et face à cette fermeté affichée contre le trafic de drogue, la réaction de David Lebars du syndicat des commissaires de la police nationale. Pour lui, la fermeture des points de deal ne fait pas tout.
On sait quand on est policier d'où vient la drogue et est-ce qu'on est capable de se satisfaire de ne saisir que quelques pourcentages de ce qui rentre à travers les frontières et surtout sur le sujet financier. Je pense qu'on peut faire encore des efforts bien plus importants. On est largement en mesure d'augmenter notre force de frappe pour taper au portefeuille. Vous savez, on dit souvent qu'Al Capone est tombé avec l'argent, il va falloir faire tomber aussi les trafiquants sur des dossiers financiers.
David Lebars au micro Europe 1 de Nicolas Feldman.
Et nous serons donc avec le maire de Montpellier à 6h40, Michael Delafosse. Les études d'infirmiers sont plébiscitées sur Parcoursup. C'est la formation la plus demandée sur la plateforme d'orientation vers les études supérieures.
Et ce, pour la troisième année consécutive, 10% des lycéens ont fait ce vœu d'intégrer l'un des 330 instituts de formation aux soins infirmiers. Anne Le Gall, la crise sanitaire n'a pas découragé les vocations.
Absolument. L'année dernière, un candidat sur 20 seulement a pu décrocher sa place. C'est le cas de Bertille et Marion, aujourd'hui en première année. La pression sur les hôpitaux pendant le confinement ne les a pas découragés, au contraire.
Ça fait que confirmer mon choix que je voulais être utile pour les autres, que je voulais être là, présente, aider les autres pour les soigner.
Parce qu'on se rend compte que vraiment, on a besoin de nous, on a besoin de soignants. Et justement, c'est une motivation supplémentaire, je trouve.
Et en première année, il y a eu l'apprentissage des premiers gestes techniques, toilettes, pansements, prise de sang, avec des stages à l'hôpital et en EHPAD, un peu particulier à cause du Covid.
C'était pas facile et en même temps, on était utile pour ce deuxième confinement.
Alors moi, j'étais confrontée à la mort, mais en fait, très bien entourée par l'équipe à l'EHPAD. Donc faut s'y faire. Je pense qu'on s'habitue jamais, mais faut s'y faire.
Et leur emploi d'infirmière est quasi assuré en fin d'études. Certes, la réalité du métier, ce sont aussi des journées de travail très chargées, m'a confié Bilal, diplômé l'année dernière. Mais le gouvernement vient d'annoncer un coup de pouce sur les salaires. 290 euros net de plus par mois en début de carrière.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. C'est le pays le plus avancé du monde en matière de vaccination et qui peut peut-être nous montrer ce qui va nous arriver dans quelques mois. Israël, depuis hier matin, le port du masque n'est plus obligatoire dans les rues. Signe d'une première victoire contre le Covid dans le pays, selon le professeur Cyril Cohen, immunologue à l'université de Bar-Ilan à Tel Aviv.
Il y a une ambiance, je dirais, assez festive à l'extérieur. Certains n'y croient pas. Il y a aussi une habitude de porter le masque. Je me suis surpris moi-même à sortir de mon bureau et marcher avec mon masque à l'extérieur. Et la population vraiment vit, je crois, une période assez particulière, surtout qu'on est exactement un an et une semaine après le décret du port du masque. On peut se féliciter qu'on a vu pendant ces trois derniers mois une chute de 98% des infections, des malades graves, des décès. Aujourd'hui, 60% de la population en Israël a déjà reçu au moins une dose de vaccin, 54% deux doses. On ne voit pas de remontée de l'infection et donc nous avons de plus en plus de preuves que le vaccin protège non seulement la personne elle-même, mais aussi les personnes autour d'elle.
Le professeur Cyril Cohen, joint pour Europe 1 par Caroline Baudry.
Il est 5h06 sur Europe 1. Pas de porte qui claque, mais pas de grande réconciliation non plus. C'est le résumé du week-end politique à gauche.
Oui, les dirigeants de plusieurs partis étaient autour d'une même table samedi à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot. 3 heures de réunion. Tous les participants ont convenu de se revoir. Claudia Bertram.
C'est assez rare pour être souligné, les gauches se parlent et tous les participants l'ont salué. Mais sans surprise, ils ne parlent pas tous de la même chose, il y avait même plusieurs niveaux de discussion. D'un côté, la vingtaine de participants top sur 3 points, un pacte de non-agression, des initiatives communes et des débats sur les programmes. De l'autre, les socialistes et les verts se disent prêts à travailler à un pacte de gouvernement. Pas les insoumis et les communistes qui ont déjà leurs candidats respectifs. L'éventualité d'une alliance rose-verte se dessine. Le patron du PS, Olivier Faure, annonce même un candidat commun en 2022. Prématuré, répond le patron des Verts, Julien Bayou, sur Twitter, et de rappeler la primaire des écologistes prévue en septembre. L'insoumis Éric Coquerel accuse Olivier Faure de faire du forcing pour installer une candidature commune de centre-gauche. Ils se retrouvent tous dans un mois, et entre-temps, chacun va continuer d'avancer ses pions.
Claudia Bertram.
Grand soulagement pour la petite Mia, 8 ans, retrouvée en Suisse 5 jours après son enlèvement dans les Vosges.
Le kidnapping avait été mis en œuvre par des hommes au profil très étonnant, tendance complotiste. Ils ont marché 2 heures pour passer la frontière franco-suisse. Et l'histoire s'arrête dans une ancienne usine désaffectée qui servait de squat. Pour Europe 1, Arthur Mbachi est retourné dans les Vosges, dans le village des Poulières, où avait eu lieu l'enlèvement.
En toute discrétion, la grand-mère de Mia a quitté sa maison ici aux Poulières hier après-midi avec une petite valise pour aller vivre pleinement et à l'abri des regards les retrouvailles avec la fillette de 8 ans, la grand-mère qui est au cœur des pensées des habitants du village.
La première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est vraiment la mamie. Ça, elle va pouvoir souffler un peu, refaire des câlins à sa petite fille, faire mettre un peu de baume au cœur. Mais ouais, je suis soulagée pour la petite aussi, quoi. Enfin, ça a dû être horrible d'être promenée justement jusqu'en Suisse, à pied, la frontière. Enfin, ça a dû être éprouvant. Quel souvenir elle va garder de son enfance, cette petite-là.
Bouga, Jeannot, Pitchoun, Roméo, le Corbeau, voilà donc les surnoms que se donnent les membres de ce groupe, ceux qui ont mis en œuvre cet enlèvement. Opération de type militaire, a dit Francis Perrin, le procureur de Nancy.
Bouga a acheté des talkie-walkie et des téléphones portables en vue de cette expédition. Il y a également du petit matériel. Pitchoun va donner donc à Jeannot un postiche. Puis ils vont se procurer également de l'équipement de camping type tente.
La mère de Mia est ce matin toujours en garde à vue en Suisse en attendant dans une semaine ou deux son extradition et sa mise en examen. Les Poulières, Arthur Mbaché, Europe 1.
Il va à nouveau nous faire rêver d'espace et de science. Le français Thomas Pesquet décolle jeudi midi pour la Station Spatiale Internationale depuis Cap Canaveral en Floride.
Oui, et avant de quitter la Terre et ses contraintes sanitaires pour 6 mois, le voilà en quarantaine depuis une semaine par précaution. Lors d'Autriche, c'est maintenant le moment pour lui des toutes dernières vérifications.
Oui, vérifier que le scaphandre fonctionne, scaphandre qu'il utilisera pour ses sorties dans l'espace. Vérifier aussi la procédure de vol. Dans cette fusée SpaceX, Thomas Pesquet sera assis à droite et la capsule sans aucun bouton se commande uniquement avec 3 écrans tactiles. Thomas Pesquet est en quarantaine jusqu'au moment de monter dans la fusée pour ne pas risquer d'emporter des microbes sur la station spatiale et il fait toujours quelques heures de sport chaque jour, raconte son collègue, l'astronaute italien Luca Parmitano, qui s'entraîne avec lui.
J'étais à la gym de la NASA avec lui. Il est en pleine forme. Il continue à s'entraîner avec son équipage. Pour l'entraînement, maintenant, c'est un entraînement très simple. C'est un rafraîchissement des procédures. Mais surtout, je dirais qu'il est très heureux. Il est prêt.
En plus de sa famille, Thomas Pesquet a la possibilité d'inviter 80 personnes pour assister à son décollage, personnes qui sont en train d'arriver en ce moment aux États-Unis.
Laure d'Autriche, spécialiste du spatial à Europe 1.
Et vous saurez tout sur les derniers préparatifs avant le décollage et sur la mission de Thomas Pesquet dans une petite demi-heure à 5h40 avec mon invité Philippe Hénarejos du magazine Ciel et Espace. C'était le journal de François Geffrier. Merci François, à 5h10. Bonjour Léric Meunier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec à la une le football et Lyon qui reste dans la course au podium après 33 journées de Ligue 1.
Oui, l'OL qui a battu Nantes hier soir 2-1 avec un doublé de Depay, 67 points au compteur. Lyon reste dans la roue du trio de tête à 3 points de Lille, 2 du Paris Saint-Germain et 1 de Monaco. Tout reste encore possible, d'autant que chacun peut faire un faux pas. Comme hier, le PSG face à Saint-Etienne avec 5 buts qui ont été inscrits en 15 minutes et les 3 points finalement pour Paris qui a gagné 3-2 grâce à Icardi à la 95e minute. Une victoire de champion. Écoutez la réponse de Pochettino.
Bon, c'est une victoire à la dernière journée. On pourra dire si c'est une victoire de champion. En tout cas, il ne fallait pas abandonner. Penser que dans le football, eh bien, si on veut obtenir des résultats, il faut aller les chercher. En tout cas, ce sont 3 points vraiment très importants dans la course au titre pour essayer jusqu'au bout d'être champion.
Para competir hasta el último por el campeonato, ¿no?
L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, interrogé par Julien Froment.
Chez les dames, très gros exploit des Parisiennes en Ligue des Champions.
Qualification du PSG féminin après sa victoire 2-1 à Lyon, justement. Les Lyonnaises qui ont remporté pourtant 5 fois la compétition. Au programme pour les Parisiennes, désormais, le FC Barcelone en demi-finale de cette Ligue des Champions.
Et en parlant de Ligue des Champions, cette Ligue des Champions pourrait désormais connaître un concurrent.
Oui, qui débarque sur le marché. C'est officiel depuis minuit, la fameuse Super League à 12 clubs qui va peut-être faire imploser le foot européen. Le Real Madrid, Liverpool, la Juventus Turin, Manchester City et United veulent créer cette ligue fermée à la manière de la NBA en basket américain. De quoi renflouer les caisses. Écoutez Vincent Chaudel qui est économiste du sport.
Les clubs, y compris les grands clubs, ont de grandes difficultés économiques. Un seul exemple, le FC Barcelone qui a plus d'un milliard de dettes. Et donc évidemment qu'ils cherchent à développer leurs recettes. Une formule de ligue fermée garantirait encore plus d'argent à ces clubs-là.
Vincent Chaudel, économiste du sport avec Cyril de la Morinerie, les fédérations, les responsables politiques, les anciens joueurs, tous se sont levés contre cette Super League.
Et l'UEFA a même menacé de les exclure des compétitions européennes. La moto à présent et encore une victoire française hier.
Bah oui, on commence à bien connaître son nom et son prénom. Fabio Quartararo s'est imposé au Portugal, ce qui le place en tête du championnat du monde. Il est tout jeune, il a 21 ans. Demain, alors est-ce qu'il se voit comme la nouvelle star de la MotoGP? On l'écoute.
Nouvelle star, on va pas dire ça comme ça. Surtout, voilà, je me sens bien, je me sens en forme, mais je me considère pas du tout comme la nouvelle star du championnat, juste un pilote qui travaille énormément pour réussir à accomplir un rêve. Ouais, oui, j'ai vraiment grandi, j'ai pris énormément d'expérience l'année dernière, beaucoup de maturité. Ça a été 3 courses vraiment très importantes pour moi. Et oui, j'ai rêvé l'année dernière, ça s'est super bien passé, donc pourquoi pas briller encore au circuit de Jerez et essayer de briller aussi en France.
Fabio Quartararo, ça fait 2 victoires en 3 courses pour le jeune Français interrogé par Axel May.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure, 5h13. Et nous découvrons à présent le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 409 Joker. Après s'être illustré l'an dernier en Suède face aux meilleurs, il revient en France, nanti d'un palmarès tout à fait présentable, puisqu'en 7 courses, il totalise pas moins de 3 victoires. Il va certes effectuer une rentrée après 8 mois d'absence, mais je sais qu'il a travaillé régulièrement pour pouvoir d'emblée s'imposer et justifier ainsi la confiance de son entourage. Alors notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 9, Joker.
Merci à vous Thierry Léger et à tout à l'heure pour le Quintet.
Europe 1.
5h14 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir les journaux, l'heure du pressing avec toute l'équipe du 5-7. Omblin, qu'est-ce que vous avez lu ce matin?
Savoir où vous avez passé votre dernier week-end, quelle musique vous avez écouté, quel podcast, savoir si vous avez grillé un feu, dépasser une limitation de vitesse quand la voiture, c'est tout de vous, des données personnelles convoitées par des entreprises et des compagnies d'assurance.
La voiture, c'est tout de nous.
Effectivement, et on ne sait pas tout.
Racontez-nous, vous allez nous raconter dans un instant, à tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h15 sur Europe 1. Emmanuel Macron veut un grand débat national sur la consommation de drogue. On se roule en joint, dit-il, dans son salon et à la fin, on alimente la plus importante des sources d'insécurité. Interview accordée au journal Le Figaro. À 2 mois des élections régionales, ce sondage IFOP pour Europe 1 et La Tribune en Normandie. Le président sortant Hervé Morin, qui mène une liste de la droite et du centre, est à 31% d'intention de vote, challengé par Nicolas Bay du Rassemblement National à 26%. Et puis Roger Federer va bien participer à Roland-Garros. Cette année, à 39 ans, le Suisse va retrouver la terre battue parisienne. Dans un peu plus d'un mois, ce sera à vivre sur Europe 1, radio officielle du tournoi.
Europe 1.
Allez, à 5h16, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. On commence par jeter un œil aux unes de vos journaux. Et cette fois, il se prépare. Il y a à la une d'aujourd'hui en France une belle image de terrasse ensoleillée avec des chaises et des tables qui n'attendent que les clients. Les restaurateurs espèrent une réouverture dans un mois maintenant, mais les défis sont immenses, raconte le journal. Autre image qui nous projette vers l'été, celle d'un plongeon. À la une de la Provence, le boom des piscines. 70 000 Français en ont installé une chez eux l'année passée. Pendant ce temps, la pression ne baisse pas sur l'hôpital. La Dépêche du Midi titre sur le malaise des soignants. Le Télégramme sur l'année éprouvante. Et Libération donne la parole à ces patients dont les opérations ont été déprogrammées. La Charente Libre raconte un confinement élastique où la souplesse des mesures permet, dit ce journal, de faire beaucoup de choses, parfois en trichant un peu. Et la Voix du Nord soulève la question du bac. Le grand flou est à la une. Enfin, vous lirez dans le Figaro cette interview, donc on vous en parlait dès 5h, d'Emmanuel Macron consacré à la sécurité. Avec cette citation à la une, « Je me bats pour le droit à la vie paisible ». Le président sera à Montpellier aujourd'hui pour annoncer des renforts. Et c'est aussi à la une de Midi Libre. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin et on commence en voiture avec vous, Omblin.
Notre voiture qui nous connaît bien et elle nous connaît de plus en plus, hein, bardée de capteurs, la vitesse, la température, capteurs sur les pare-chocs, elle est Bluetooth maintenant pour que nous puissions connecter notre téléphone. Les voitures à leur tour emmagasinent de plus en plus d'informations et la question des données personnelles se pose et va surtout se poser. C'est Libération qui en parle ce matin. Aujourd'hui, l'analyse des pièces comme les pneus permet d'affiner la conception des véhicules et améliorer la maintenance, mais certaines informations ont un caractère bien plus privé, comme la position de la voiture, l'historique de la navigation, les images des caméras, ce que vous avez écouté, via quelle plateforme de streaming. Les constructeurs ne peuvent pas utiliser ces données aujourd'hui. Non, mais ces informations valent de l'or et les constructeurs pourraient bien se laisser tenter de les vendre à des entreprises dans un but publicitaire ou pour développer de nouveaux produits. Ce qui vous protège encore aujourd'hui, c'est votre consentement. On ne peut rien faire sans. Mais on s'approche, franchement, du point de bascule. Libé revient sur le partenariat.
On va pas se mentir, des fois on clique accepter et on lit pas vraiment
c'est
ce qu'on accepte.
C'est exactement ça. Et surtout au début, lorsque vous achetez une voiture, vous acceptez les conditions d'utilisation. Et donc après, ça vous avez tout accordé, en fait. Et donc Libé revient sur le partenariat signé entre le constructeur PSA et IBM, société experte en analyse de données. Eh bien, les deux entreprises proposent à des villes des études détaillées sur la circulation à des endroits précis, sur les itinéraires empruntés. Alors bien sûr, les données récoltées sont rendues anonymes, mais le problème, c'est le manque d'informations des conducteurs. Et puis, il semble qu'on va difficilement pouvoir échapper dans un futur proche à la boîte noire, comme celle d'un avion, un boîtier intelligent qui pourrait enregistrer des données d'événements sur les automobiles. Aujourd'hui, déjà, un boîtier intelligent est proposé par des compagnies d'assurance pour évaluer la conduite du conducteur, adapter les tarifs.
Pour payer moins cher.
Exactement. Ouais. Sauf que le risque, c'est que les compagnies refusent ensuite d'assurer. Oui. Et les assurances refusent de vous assurer si vous n'avez pas de boîtier. Les voitures non équipées, ça c'est le risque. Si vous n'avez pas de boîte noire, on ne vous assure pas. Suivi à la trace dans votre voiture, que va-t-il advenir de nos données personnelles? C'est dans Libération.
Et puis surtout que maintenant dans les voitures, les Apple, Google et autres entrent dans les tableaux de bord. C'est directement accessible. Donc forcément, on sait...
Donc où va-t-on
On sait à quoi s'en tenir.
Soyons et restons prudents.
Merci, c'est donc à lire dans
Libération
ce matin. Moi je vous emmène en Nouvelle-Zélande. On apprend sur le site du figaro.fr qui reprend une info du Guardian anglais, que le pays veut devenir la première nation sans tabac. Objectif posé pour 2025. La Nouvelle-Zélande songe à tout simplement interdire le tabac à toute personne née après 2004.
D'accord.
C'est la génération qui entre dans l'âge adulte. Première mesure d'une série de propositions évoquées par le gouvernement qui envisage d'augmenter aussi progressivement l'âge légal pour fumer, pour aboutir à une interdiction totale de la vente des cigarettes. Et d'ici là, réduction significative du niveau de nicotine autorisé, interdiction des filtres, augmentation des prix, limitation des lieux de vente. Voilà, c'est vraiment une offensive sur la cigarette. En Nouvelle-Zélande, le tabac est responsable d'un décès par cancer sur quatre. Et les effets sont particulièrement dramatiques sur les populations maoris, les femmes notamment, ont des taux de tabagisme très élevés, et idem dans les milieux populaires. Alors les propositions du gouvernement semblent pas si mal accueillies, ça déclenche pas le tollé qu'on pourrait imaginer. Soutien, bon, évidemment, des organisations de santé. Critique tout de même sur les conséquences potentielles économiques. Hein, certains s'inquiètent de voir les buralistes faire faillite les uns après les autres. Forcément.
A priori, oui.
Et aussi du développement d'un marché parallèle. Forcément, marché noir, prohibition, ouais. Marché noir. D'autres pointent le fait que le gouvernement n'a pas tout simplement à s'immiscer à ce point dans la vie privée des Néo-Zélandais. En France, il y aurait quand même une autre donnée. Je ne sais pas quel est le niveau des taxes sur le tabac en Nouvelle-Zélande, mais en France, interdire le tabac, ce serait se priver de 14 milliards d'euros pour le budget de l'État. Quand même. 14 milliards d'euros. L'année dernière, plus 10% recette fiscale sur le tabac avec l'augmentation des prix et l'augmentation de la consommation. C'est-à-dire sur le figaro.fr ce matin, interdiction totale du tabac en Nouvelle-Zélande. Martin, on termine avec vous.
Et oui, direction la Chine ce matin, Sébastien, pour vous présenter l'ange du pont de Nankin, cet homme qui a sauvé plus de 400 vies, des hommes, des femmes désespérés qui passent le garde-fou du pont, avec l'idée d'en finir et qui croisent la route de cet ange gardien. Alors tout ça se passe à 70 mètres au-dessus du fleuve Yangtze, sur le pont de Nankin, donc chef-d'œuvre de la période maoïste, mais qui est depuis devenu célèbre pour un triste record, celui du plus grand nombre de suicides sur ce type d'ouvrage. Hein. Plus de 3000 depuis la fin des années 60.
Plus de 3000 suicides depuis la fin des années 60.
En un peu plus de 60 ans. Un record qui lui vaut un tout aussi triste surnom, le pont des suicidés.
Et donc pour lutter contre ces suicides, un homme a tenté de raisonner les plus fragiles.
Oui, il s'appelle Cheng Xi, hein, et tous les week-ends depuis maintenant 18 ans, il arpente les 1500 mètres du pont à la recherche d'âmes en peine. Son objectif, les faire renoncer à leur sombre projet. Hein. Tout a commencé pour lui lorsqu'il avait 22 ans. Il croise par hasard une jeune femme prête à se jeter dans le vide. Chen entame la discussion et parvient à la convaincre de rester en vie. Depuis, cette femme, Chen a sauvé 411 autres vies, selon son propre décompte. Des chagrins amoureux, des dettes, des accidents de vie. Tout le malheur des hommes, hein, qu'il a aussi fallu apprendre à supporter. Une mission quasi divine qui lui a valu ce surnom dans la presse locale. Hein, l'ange de Nankin, surnom qu'il rejette. Je ne suis pas un ange, j'essaye juste d'apporter un peu de lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Aujourd'hui, Chen a toute une équipe pour l'accompagner. Hein, des volontaires recrutés à la fac de psychologie à qui il transmet ses conseils. Il a aussi aménagé un petit dortoir dans le centre-ville pour accueillir ceux qui n'ont pas d'endroit où aller. L'ange du pont de Nankin, c'est-à-dire sur le site du Huffington Post.
Comment il s'y prend? Juste en leur parlant?
Juste en leur parlant. Alors, je n'ai pas assisté, mais visiblement, c'est juste en leur parlant, en les écoutant aussi beaucoup. Ouais. En les écoutant, j'imagine. Écouter parler de leurs problèmes. Enfin, voilà.
400 vies sauvées pour Genesis sur ce pont de Nankin, 70 mètres au-dessus du fleuve Yangtze. Sur le Huffington Post. Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour. Il est 5h23 sur Europe 1. Et pour les doigts dans l'assiette, nous serons en Normandie dans quelques secondes. À tout de suite.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
5h24, c'est l'heure des doigts dans l'assiette et nous sommes en Normandie chez Isabelle de Radiguès. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sébastien.
Comment allez-vous?
Je vais bien, merci.
Vous êtes notre éleveuse près de Caen, dans le Pays d'Auge, avec votre fils qui lui s'occupe des cultures céréalières. Bon, comment ça se passe en ce moment sur l'exploitation? Vous avez pu sortir un peu les bêtes, ça y est, le printemps est amorcé?
Oui, tout le monde est parti parce que le dernier lot de génisse a été vendu, et donc il reste le groupe des 5 que je vous avais montré, et qui vont rester ici jusqu'à la fin de leur vie. Mais il y en a une qui s'est ajoutée au groupe, parce qu'en fait, il n'y avait plus que 4, et donc ça devient un groupe des 5. Alors, je ne sais pas, c'est la petite pastèque. Ah. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle de pastèque.
Mais racontez-nous, pastèque est arrivée quand, alors, sur l'exploitation?
Ah, mais son destin a changé du jour au lendemain. Vous vous rappelez du destin tragique, la fin tragique de Michelette sur la glace, qui s'était écartelée. Bon, on l'avait étalasiée. Et l'année dernière, Michelette avait eu des jumeaux. Et il y a un truc que tout le monde doit savoir, c'est que quand une vache a des jumeaux, si c'est un mâle et une femelle, la femelle, elle est quasiment toujours stérile.
D'accord.
C'est comme ça, c'est les hormones mâles qui passent à travers le cordon ombilical. Donc, c'est pas vraiment pour faire la reproduction, c'est mal parti quand même, hein, une femelle stérile. Et pour faire de, en sanité bouchère, c'est pas génial non plus, dans la mesure où Michelette était une pure Primolstein. Donc la vraie vache à lait, grande, mince, qui donne beaucoup de lait, pas beaucoup de viande. Et normalement, la petite pastèque devait partir avec ses copines génisses. Et puis, je me suis promenée dans la stabule, là, et puis on s'est regardé. Et je me suis rendu compte qu'elle avait le caractère aussi charmant que sa mère. Donc facile, gentil, calme. Puis j'ai réfléchi un petit peu, puis je dis que toi, tu vas rester. Voilà, ça, c'est le destin de Pastèque, la fille de Michelet.
Elle a quel âge maintenant?
Elle est un peu plus...
Ah, hop, voilà. On a été coupé. Ah, elle a quel âge, dites-nous?
Elle a un peu plus d'un an.
Un peu plus d'un an, voilà. Bon, on souhaite la bienvenue à Pastèque sur votre exploitation, Isabelle de Radiguès. Merci à vous. À bientôt, dans les doigts dans l'assiette.
À bientôt, au revoir Sébastien.
À bientôt, bonne journée à vous. 5h27.
Serons-nous un souvenir qui s'efface au lointain, si lointain qu'il n'inspire plus aucun chagrin? Les livres d'histoire passeront sous silence, nos défaites, nos victoires, nos facultatives présences. La vie apprend surtout qu'il ne faut pas douter, qu'on se passera de nous comme nous de nos aînés. Oui, et alors, comment te donner tort? Allez, un effort, profitons de l'aurore, parce que voilà, on n'en est pas là. Même les plus anciens pourront témoigner que personne ne se souvient de nous avoir oublié. L'arbre généalogique écorcera nos noms, un bûcheron même pas amnésique en aura scié le tronc. Disparaîtront nos reflets des mémoires infidèles, s'évanouiront les regrets qu'on disait éternels. Oui, et alors, comment te donner tort? Allez, un effort, profitons de l'aurore. Pas là.
Benabar sur Europe 1, une chanson extraite de son dernier album Indocile Heureux, sorti le 29 janvier dernier, des chansons composées avant le premier confinement, mais qu'il a adaptées à l'actualité, notamment celle-ci, Oui et alors, sur Europe 1. Allez, c'est l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo.
Bah oui, c'est du beau temps, hein. Réjouissons-nous, le ciel est dégagé. Les quelques ennuis que nous avions sur les Alpes et sur la Côte d'Azur et la Corse, c'est-à-dire des averses, des giboulées avec de la neige en altitude, avec des orages, tout ceci a tendance à se manifester encore aujourd'hui, mais avec une intensité assez faible, il faut bien le dire. Des nuages un peu plus présents sur la Champagne-Ardenne, sur la Lorraine, l'Alsace et la Bourgogne. Ouf, bon, d'accord, c'est pas énorme. Et puis ailleurs, le soleil sera présent, même s'il est toujours contesté ou contrasté en raison des passages nuageux. Les températures aujourd'hui, ça c'est pas mal, hein. 15 degrés à Lille, 16 degrés à Nice, il en fera 17 à Paris cet après-midi, 18 à Lyon comme à Marseille et 19 à Toulouse. Et ce matin, nous aurons quelques gelées dans l'Ain, en Corrèze, dans la Nièvre, dans Normandie, mais enfin c'est vraiment des gelées provisoires et elles sont de courte intensité, autour de 0 à moins 1.
Merci à vous Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Bienvenue si vous nous rejoignez au réveil. Tout de suite, un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
On a beaucoup de chance. On ne s'était pas vu depuis des mois avec mon amie Claire. C'est chouette de retourner au bureau, de voir des gens, des amis, bref, de socialiser.
Le premier territoire d'Europe libéré du Covid. Gibraltar a officiellement éradiqué le virus. Population vaccinée, restrictions levées. Europe 1 est sur place dès le début de ce journal. Emmanuel Macron joue la carte sécuritaire à un an de la prochaine présidentielle. Interview fleuve dans le journal Le Figaro. Alors que certains élus se forment contre le risque d'agression grâce aux agents du GIGN. À suivre également la mobilisation internationale pour tenter de sauver Alexei Navalny tout près de la mort en Russie. Et puis ce séisme, cette sécession position dans le monde du foot européen.
Après le journal de Final Countdown, le compte à rebours est lancé. Thomas Pesquet décolle jeudi pour la Station Spatiale Internationale. Quels sont les derniers préparatifs, les derniers rituels avant le départ? Mon invité dans 10 minutes, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef à Ciel et Espace. Bienvenue à tous, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous vous emmenons donc ce matin dans le seul territoire d'Europe qui a éradiqué le Covid grâce à une campagne massive de vaccination. Gibraltar s'est complètement débarrassé du virus. L'enclave britannique au sud de l'Espagne a vacciné ses 34 000 habitants âgés de plus de 16 ans. Résultat, toutes les restrictions ou presque sont levées et un sentiment de liberté flotte sur le rocher, comme a pu le constater l'envoyé spécial d'Europe 1, Henri de Laguéry.
Ça va très bien, c'est génial de retrouver la vie normale, je pensais que ça n'arriverait plus.
Et pourtant Nadine a bien retrouvé sa vie d'avant en bord de mer, sous un soleil éclatant, elle boit un cocktail en terrasse avec une amie. Et toutes les tables sont remplies, les masques ont disparu, le gel hydroalcoolique aussi. Comme tous les plus de 16 ans de Gibraltar, cette quadragénaire est vaccinée.
On a beaucoup de chance, on ne s'était pas vu depuis des mois avec mon amie Claire. C'est chouette de retourner au bureau, de voir des gens, des amis, bref, de socialiser.
Et hier, le public a fait son retour au stade, le couvre-feu a été levé, il n'y a plus un seul malade Covid à l'hôpital et cela fait plus d'un mois que le Rocher n'a pas enregistré de nouveaux cas. Majid vit en Andalousie mais il passe la frontière tous les jours car il travaille ici dans une entreprise de jeux en ligne. Comme les 15 000 frontaliers, ce Français de 33 ans a pu se faire vacciner.
C'est incroyable, on fait la queue 2 minutes, on va dans une salle d'attente, on reçoit la dose. En 15 minutes, j'étais vraiment rentré et sorti avec la première dose.
Comment vous sentez ?
Ça fait vraiment du bien.
Grâce à cette immunité collective, Gibraltar savoure donc sa liberté retrouvée et peut envoyer un message au reste du monde.
Je souhaite à tout le monde de pouvoir retrouver comme nous une vie normale. J'espère que tout le monde sera vite vacciné.
Et on espère aussi reportage à Gibraltar, signé Henri de Laguéry.
Allez, retour à la réalité française. Le nombre de personnes en réanimation repasse sous la barre des 5 900. Près de 13 millions de personnes ont reçu une première injection, soit environ un cinquième de la population française.
Et les enseignants de plus de 55 ans ont désormais le droit de se faire vacciner. Depuis ce week-end, des créneaux leur sont dédiés, alors qu'ils retrouvent dans une semaine maintenant leurs élèves, après 2 semaines de fermeture des classes et 1 semaine en distanciel. Injection, façon de se rassurer donc pour ce couple d'instituteurs qu'a rencontré près de Lille, Maximilien Carlier.
Isabelle et Jean-Yves, 55 et 65 ans, instituteurs et soulagés, vaccinés, enfin à 1 semaine de la rentrée.
On est quand même en contact des enfants sans cesse. Ça doit être des grandes, CM1, CM2, ils ont 10 ans. C'est compliqué pour eux d'avoir le masque plus de 6 heures par jour, quand on compte le temps périscolaire. Et on peut accepter, enfin on ne l'accepte pas vraiment, mais on peut comprendre qu'ils aient envie de mettre le masque sous le nez, quoi. Donc le fait de reprendre la classe vaccinée, ça nous rassure carrément.
Une sérénité retrouvée, oui, mais pas question pour autant d'arrêter les gestes barrières, car ces professeurs des écoles sont en première ligne face au virus.
On côtoie énormément de monde. Sur une journée, je pense que je dois croiser enfants, adultes mélangés, plus de 150 personnes.
Il faudrait d'ailleurs, selon eux, encore accélérer la vaccination du corps enseignant, et il y a même urgence, ras-le-bol des contraintes sanitaires.
Ne serait-ce que pour manger le midi, on doit manger seul, on ne peut pas manger en salle des maîtres, il n'y a plus d'échange avec les collègues.
Toutes les activités extrascolaires sont supprimées, les voyages de classe, la fête de fin d'année, tout ça.
Alors ce sont des détails, certes, confie cet instituteur, mais qui ont leur importance pour donner envie de repartir l'année prochaine. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
À un an de la prochaine présidentielle, Emmanuel Macron passe, lui, à l'offensive sur les questions de sécurité. Longue interview accordée au journal Le Figaro ce matin.
L'objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat sera tenu, dit-il. Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022. Le président qui annonce aussi un grand débat national sur la consommation de drogue. Il sera aujourd'hui en déplacement à Montpellier.
Et Montpellier où il devrait aussi parler des agressions qui se multiplient contre des élus. Plus de 1 200 l'année passée. Des formations sont désormais mises en place avec des formateurs du GIGN pour aider ces maires ou conseillers municipaux à désamorcer ces conflits. Charles Guyard s'est glissé dans l'une de ces séances à Pornic.
Ça a été « tu vas bientôt mourir » ou « il va t'arriver quelque chose ».
Menaces de mort, insultes et parfois même des atteintes physiques. Et cela se passe partout, en mairie, dans la rue, voire parfois dans la sphère privée.
Vous vous retrouvez chez vous, interpellé. Vous ne savez pas quoi leur répondre.
C'est justement pour savoir gérer ces situations que des formations sont désormais proposées aux élus locaux. Comme ce matin-là, à Pornic, 22 adjoints et maires se mettent en scène dans des simulations organisées par 2 gendarmes négociateurs.
Dépêchez-vous parce que j'en ai marre.
J'attendais.
Avant c'était un maire, un homme. C'était mieux
minutes. Hein.
Quelques rires gênés fusent, attaques sexistes, nervosité, impatience, ils ont tous déjà vécu cela. En 2020, 1276 élus ont ainsi été agressés. En France, c'est 3 fois plus qu'en 2019. Et le contexte sanitaire n'explique pas tout. Anthony, l'un des formateurs.
On a des gens qui sortent de grandes villes et qui viennent dans des petites villes avec les mêmes exigences. Tout le monde veut un petit peu tout de suite.
Parmi les conseils sur la conduite à tenir, le dépôt de plainte est vivement encouragé. Une démarche qui laisse néanmoins sceptique.
J'ai déposé des plaintes, puis par derrière, les gens ne sont pas condamnés.
Alors, il y a eu des plaintes déposées, on attend. On se sent vraiment abandonné par les services de l'État.
Et c'est tout le paradoxe de cette formation, fruit d'une prise de conscience des pouvoirs publics sur le sort des élus, quand ces derniers, sur le terrain, partagent le même sentiment d'abandon. Pornic, Charles Guyard, Europe 1.
À l'étranger, la mobilisation internationale pour tenter de sauver Alexei Navalny, l'opposant russe, risque l'arrêt cardiaque d'une minute à l'autre, selon ses médecins, après sa grève de la faim entamée il y a près de 3 semaines. Washington avertit qu'il y aura des conséquences si le Kremlin laisse mourir l'opposant emprisonné depuis janvier. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent en urgence aujourd'hui. Jean-Jacques Herry.
À Berlin, on réclame de manière urgente un traitement médical adéquat pour Alexei Navalny. À Paris, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pointe la responsabilité majeure du président Vladimir Poutine. Et à Washington, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, menace les autorités russes sur CNN.
Il y aura des conséquences si M. Navalny meurt.
Quant à l'Union européenne, elle souhaite sa libération immédiate et sans condition. Pour le moment, pas de réponse directe du Kremlin. Seule prise de parole, celle de l'ambassadeur russe à Londres sur la BBC.
Navalny se comporte comme un hooligan, mais on ne le laissera pas mourir en prison.
En effet, pour Florent Parmentier, chercheur au Cevipof, la Russie ne peut pas se le permettre. Mais ce ne sont pas les injonctions occidentales qui feront céder Vladimir Poutine s'il cède, mais bien des raisons de politique intérieure.
Il n'est pas nécessairement dans l'intérêt du pouvoir central russe de perdre Alexei Navalny et certainement pas en prison. Ça risque de mener à d'autres formes de remise en cause plus radicales du pouvoir en interne, par la population même.
C'est ce levier que les proches d'Alexei Navalny s'efforcent d'enclencher. Ils ont appelé à une grande manifestation dans toute la Russie ce mercredi pour sauver la vie d'un opposant qui pourrait devenir un martyr.
Jean-Jacques Herry. Enfin, le football européen en pleine guerre de sécession. C'est désormais officiel. 12 des plus grands clubs du continent, parmi lesquels le Real Madrid ou la Juventus de Turin, ont annoncé cette nuit le lancement d'une Super League, une Coupe d'Europe fermée pour concurrencer la Ligue des Champions.
L'UEFA, l'instance du foot européen, proteste. Elle menace de bannir ses clubs. Même Downing Street et l'Elysée se fendent de communiqués hostiles.
Cyril de la Morinerie, cette Ligue fermée entre super champions leur ferait tout simplement gagner plus d'argent.
Oui, c'est un bras de fer entre les clubs les plus riches et l'UEFA qui organise la lucrative Ligue des Champions. Le Real Madrid, Manchester United et la Juventus de Turin notamment lorgnent sur ce jackpot, d'autant qu'avec la pandémie, certains clubs sont dans le rouge, d'où leur idée de créer une ligue fermée, explique l'économiste du sport Vincent Chaudel.
Les clubs, y compris les grands clubs, ont de grandes difficultés économiques. Un seul exemple, le FC Barcelone qui a plus d'un milliard de dettes et donc évidemment qu'ils cherchent à développer leurs recettes. Une formule de ligue fermée garantirait encore plus d'argent à ces clubs-là.
Dans cette nouvelle compétition entre clubs super riches, chaque participant pourrait toucher 350 millions d'euros par an, soit 4 fois plus que ce que gagne aujourd'hui le vainqueur de la Ligue des Champions. Mais l'UEFA qualifie ce projet de cynique et menace les clubs concernés de les exclure de toutes les compétitions existantes. Le PSG a confirmé à Europe 1 qu'il n'a pas l'intention d'y participer. D'ailleurs, l'Allemagne et la France sont sur cette ligne. L'Elysée a rappelé sa ferme opposition à cette Super Ligue européenne qui mettrait un terme au mécanisme de solidarité.
Et on n'a pas fini d'en parler, je pense. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
On y reviendra avec évidemment tous vos résultats sportifs tout à l'heure dans la page des sports avec les Nike Money à 6h10. C'était Théo Manval pour le journal, 6h20. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que va se courir ce Quintet, un handicap réservé exclusivement aux juments âgées de 4 ans. Attention, 15 partantes et non 16, le numéro 3 ayant déclaré forfait. Difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 1 Sagamira, la plus chargée de ce handicap avec 61 kilos, mais sa situation sur l'échelle des poids est justifiée puisque l'an dernier, elle avait aligné pas moins de 3 victoires consécutives, toutes obtenues avec facilité. Sa principale rivale sera Perle d'Ivoire, le numéro 5, qui se recommande de 2 bonnes performances dans cette catégorie des quintés obtenues lors de ses 2 dernières sorties et sans incident de parcours. Elle peut être considérée ici comme une certitude à l'arrivée. Ensuite, je vous recommande le numéro 12, Vivi Bonnebouille, qui a visiblement le bon profil pour réussir très rapidement dans cette catégorie, mais aussi le numéro 10, Papua, probante deuxième le 23 mars à Chantilly, pour sa première tentative à ce niveau. Enfin, les numéros 7, Like a Charm, 13, Tarida, 8, Jem Cutter et 2, Passe-Fontaine compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 5, 12, 10, 7, 13, 8 et 2.
C'est noté, Thierry Léger, et tous vos pronostics sont à retrouver sur Europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
5h41, il repart vers les étoiles jeudi. Il sera 6h11 du matin en Floride, midi 11 précisément à Paris. Thomas Pesquet décollera à bord de la fusée SpaceX pour son deuxième séjour dans la Station Spatiale Internationale. Et nous en parlons ce matin avec mon premier invité. Bonjour Philippe Anarajos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 5-7. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Ciel et Espace. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire jusqu'à jeudi ?
Ben là, maintenant, c'est les derniers préparatifs, les dernières répétitions, les dernières mises au point. Alors, elle se divise en deux parties. Une partie assez courte qui est la phase de lancement et de vie à bord de la capsule Crew Dragon jusqu'à ce que l'équipage rejoigne l'ISS. Et puis, il y a la deuxième partie de la mission, celle-là est travaillée depuis bien plus longtemps, qui va durer 6 mois. C'est le séjour à bord de l'ISS.
Quand vous dites les dernières répétitions, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils répètent ? Ce sont les gestes du décollage qu'il faut répéter à l'infini ?
Oui, je pense qu'il y a des petites simulations, des essais avec les centres de contrôle, des choses comme ça, mais bon, tout est au point.
Tout est déjà au point. Thomas Pesquet qui donnera une conférence de presse aujourd'hui en attendant son départ. Il est dans une forme de bulle en ce moment. Les mesures sont strictes, j'imagine, qui plus est avec le Covid.
Oui, c'est ça. Alors déjà, les astronautes qui partent pour une longue durée ou même une durée relativement courte sur l'ISS sont mis à l'isolement, tout simplement pour pas mener un rhume ou la grippe à bord. Alors là, imaginez avec le Covid. Il ne s'agit pas qu'ils ramènent la pandémie à bord de l'ISS, ce qui serait quand même catastrophique.
Ça veut dire qu'il ne peut déjà plus voir ses proches ?
Physiquement, a priori, ils sont coupés de toute personne extérieure.
Il y a des rituels, vous parliez de ces quelques traditions, avant un décollage comme celui-là. Est-ce qu'il y a des superstitions ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait dans les derniers jours systématiquement ?
Alors, ça dépend à bord de quel vaisseau vous décollez. Si c'est côté russe, il y a des rituels qui sont bien instaurés côté russe. Là, on est dans une situation un peu nouvelle avec SpaceX et ce vaisseau Crew Dragon, qui finalement, entre le vol de démonstration habité où il y avait que 2 astronautes et le premier vol commercial Crew One avec 4 astronautes, les traditions n'existent pas, elles sont à créer. On a vu aussi, je crois, lors des vols précédents, les astronautes signer un petit graffiti sur la paroi de la salle d'embarquement, juste au moment de franchir le seuil pour rentrer dans la capsule.
Alors, je vous le disais, Thomas Pesquet va décoller à bord d'une fusée SpaceX. Il sera le premier Européen à embarquer dans cette capsule Crew Dragon. Qu'est-ce qui est différent par rapport au Soyuz qu'il avait utilisé la première fois ?
On a pu voir sur les premiers vols une différence frappante, c'est que tout est numérique, digital, on dirait en anglais. C'est-à-dire que vous avez des écrans, très peu de boutons, très peu de manettes. Il y en a quand même quelques-uns, il y a quand même un peu de mécanique. Il faut que ça soit quand même sûr, qu'on puisse se rattacher à quelque chose si tout plante, par exemple. Ouais, c'est un vaisseau qui ressemble à quelque chose de futuriste par rapport au Soyuz, qui reste quand même avec beaucoup de boutons. Forcément, le Soyuz, je rappelle, il a été créé en 1967. Alors, c'est pas la version de 1967 qui vole aujourd'hui. Hein. Il a été amélioré, l'informatique a fait son entrée à bord, etc. L'habitacle dans lequel les 3 astronautes du Soyuz se trouvent, il est quand même assez étroit. En volume total, le Soyuz est à peu près de la même taille que la Crew Dragon, mais il est séparé en 2 compartiments. Donc, le compartiment de décollage est très étroit. Là, dans Crew Dragon, on a l'impression que, quand même, ils ont un peu plus d'espace, mais ils ont un seul espace dans lequel les astronautes peuvent évoluer. Ensuite, il va y avoir aussi la fusée. On n'a pas encore beaucoup de retours, mais les premiers astronautes doivent en parler, mais par exemple, un Soyuz décolle assez lentement. C'est assez doux, finalement. Avec la Falcon 9, peut-être c'est un peu plus rude. En tout cas, ce sera jamais aussi rude qu'avec la navette spatiale où il y avait les 2 gros boosters à poudre qui vraiment vous collaient au siège au départ. C'était assez sportif.
Ouais. Et là, que subit le corps ? On sait un peu ce que subit le corps au moment de ce décollage ?
Ah ben, au moment du décollage, du fait de l'accélération, on ressent un corps qui devient plus lourd, plus pesant, plus oppressé que celui qu'on a l'habitude d'avoir quand on marche ou quand on est allongé sur le plancher des vaches.
Combien de temps va durer le vol ?
Pour rejoindre l'orbite, c'est assez simple. On part de la vitesse zéro au niveau du sol. La fusée est statique sur son pas de tir. Puis, quand les moteurs s'allument, elle va subir cette accélération pendant 9 minutes environ. C'est-à-dire qu'il faut 9 minutes pour rejoindre l'orbite qui est à environ 300 km d'altitude et atteindre une vitesse de environ 28 000 km à l'heure pour rester satellisé autour de la Terre. Donc vous voyez, en 9 minutes, on passe de 0 à 28 000 km à l'heure. Ensuite, il y a toute une phase de vol pour rejoindre la station spatiale internationale, donc ça peut durer 2-3 jours pour s'amarrer et enfin pour que les astronautes rejoignent leurs collègues qui sont déjà en orbite dans l'ISS.
Thomas Pesquet va y rester 6 mois sur cette station spatiale internationale. Quelle va être sa mission à bord ?
En gros, pendant 50% du temps d'un astronaute sur l'ISS, ce sont des expériences scientifiques. 25% du temps est consacré à l'entretien de la station spatiale qui est vieillissante. Par exemple, il y a des sorties spatiales à faire pour préparer l'amélioration des panneaux solaires parce qu'il y a besoin d'un peu plus de puissance. Il y a des choses à changer, des batteries, des choses comme ça. Donc ça, c'est 25% du temps. Les 25% restants, c'est le sommeil et le loisir. Et donc sur 6 mois, c'est pas une mission similaire à celle qu'avaient les astronautes qui allaient sur la Lune. Là, il y a diverses sciences dans lesquelles Thomas Pesquet va devoir exercer plusieurs dizaines d'expériences, on va dire. C'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de la physiologie, de la médecine. C'est aussi des expériences tournées vers les vols spatiaux à longue durée. Donc il y a vraiment toute une palette d'expériences qui vont l'occuper comme ça. Et on voit que les journées sont quand même chargées parce qu'après, il reste un quart du temps pour se reposer et pour photographier la Terre par le hublot.
Exactement, par le hublot, la Terre qu'il verra à 400 km de cette station spatiale internationale. On suivra sa mission. Il sera d'ailleurs le commandant de bord de la station pendant un mois de ces 6 mois. Décollage donc jeudi, midi 11, heure de Paris. Merci à vous pour ces précisions, Philippe Hénarejos.
Merci, au revoir.
Europe 1.
Il est 5h48 sur Europe 1 et c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France à travers nos régions. Avec vous, Lénaïque Monnier, où va-t-on ?
On va à Aimargues, c'est dans le Gard, où vient d'être lancé le premier site d'adoption responsable de félins. Ça s'appelle Wikichat.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h49 sur Europe 1, c'est l'information de la nuit. Ce coup de tonnerre au sommet du foot européen, 12 des clubs les plus prestigieux annoncent lancer leur propre compétition, une Super League fermée, beaucoup plus lucrative que la Ligue des Champions. L'UEFA condamne cette initiative prise entre autres par le Real de Madrid, l'AC Milan ou encore Manchester United. Chaque Français verra plus de bleu en 2022 qu'au début du quinquennat. Emmanuel Macron promet dans le Figaro de tenir l'objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. 5 hommes mis en examen pour le rapt de la petite Mia, retrouvée finalement saine et sauve hier dans un squat en Suisse. Sa mère est toujours en garde à vue sur place en attendant son extradition. Et puis réunion en urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne aujourd'hui au sujet d'Alexei Navalny. Les capitales occidentales font pression sur Moscou devant le risque imminent de décès de l'opposant du Kremlin.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe.
Lénaïque Monnier, nous allons donc dans le Gard.
Oui, où un site qui s'appelle Wikichat a été lancé il y a peu en écho à la loi sur la maltraitance animale, qui est toute jeune. Depuis un an, autrement dit le premier confinement, les adoptions d'animaux ont fait un bond de 9%. Plusieurs explications, tromper la solitude et l'isolement, ou bien se permettre d'avoir un animal de compagnie si par exemple on a quitté la grande ville et un petit appartement pour une maison avec jardin. Le problème, c'est que nombreux sont ces animaux de compagnie qui sont ensuite abandonnés, de plus en plus même chaque année, 100 000 environ. En France, on est l'un des plus mauvais élèves d'Europe, surtout en ce qui concerne les chats. 1 sur 2 ne sera pas gardé, d'où un nouvel outil pour éduquer les maîtres.
Alors comment ça fonctionne Wikichat ?
Alors le site essaie de comprendre ce qui pousse les gens à s'attacher à un chiot ou un chaton et à pouvoir s'en détacher aussi rapidement. L'idée c'est de responsabiliser les propriétaires d'animaux avec un certificat du propriétaire responsable. Ça évite les achats compulsifs par exemple, parce que n'importe qui évidemment craquerait devant les facéties d'une petite petite bête, mais sauf qu'après, on signe pour une bonne quinzaine d'années. Autant donc connaître à l'avance les besoins de l'animal. Le site propose une aide financière aussi pour les premières consultations chez le vétérinaire. Les propriétaires de chats notamment sont très vivement encouragés à les faire stériliser, mais l'opération parfois peut coûter cher et on ne le sait pas forcément.
Ouais, une initiative qui vient en soutien de la nouvelle loi donc contre la maltraitance animale.
Qui avait été votée fin janvier. C'est comme une méthode, en fait, un mode d'emploi pour mieux comprendre cette loi avec des cas pratiques. Une loi qui a donné naissance à ce site derrière lequel on retrouve notamment une marque de croquettes, mais qui est bien utile pour faire ses premiers pas en tant que propriétaire de chien ou de chat.
Voilà, ça s'appelle donc Wiki Chat pour adopter, mais en toute responsabilité.
Absolument.
Je confirme que ça occupe.
Ah, ça occupe. C'est vrai.
Ça fait quelques dégâts aussi.
Aussi, oui.
Petit chat. Merci Lénaïque Monnier. 5h52, on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec vous, Martin Lange.
Oui, et ce matin, je vous parle d'une vidéo de retrouvailles, Sébastien. Des retrouvailles entre deux amoureux, deux octogénaires séparés pendant des mois par la crise du Covid et qui ont enfin pu se revoir, hein, avec beaucoup d'émotions, forcément. Une émotion partagée par les internautes. Alors, c'était lundi dernier, hein, pour la première fois depuis 8 mois, Gordon Davis peut rendre visite à son épouse Mary dans sa maison de retraite en Angleterre. Une rencontre immortalisée par le personnel soignant et partagée sur les réseaux sociaux. Alors ce que vous pouvez entendre là, c'est l'émotion des deux tourtereaux, hein. On voit Gordon qui abandonne sa canne, Mary qui lâche son déambulateur et qui demande si elle peut toucher son mari, et puis ce baiser, hein, le premier depuis 8 mois. Alors cette vidéo, elle a été visionnée plus de 6 millions de fois, avec des dizaines de milliers de commentaires. Un peu comme les terrasses de pub, hein, ce couple d'octogénaires est devenu un des symboles de l'assouplissement des contraintes en Angleterre.
Et alors, pourquoi ils étaient séparés pendant aussi longtemps?
Eh bah, bien, tout simplement parce qu'ils ne résidaient pas dans la même maison de retraite, hein. Malgré leurs 68 ans de mariage, depuis septembre, c'était donc chacun chez soi, tant pis pour l'amour. Mais depuis lundi dernier, les visites sont de nouveau autorisées dans les EHPAD anglais. Gordon a donc pu venir voir sa femme, qui n'était pas au courant, d'où sa surprise emplie de bonheur sur la vidéo. C'est tellement bon de le revoir quand il est parti, j'ai pleuré comme une madeleine, raconte-t-elle au Daily Mail. Mais rassurez-vous, hein, Sébastien, Marie va enfin pouvoir sécher ses larmes, son mari ne la quittera plus, puisque Gordon a désormais sa propre chambre dans le même établissement que son épouse.
Voilà, chambre à part, mais dans la même maison de retraite, c'est quand même un peu mieux. Effectivement, 8 mois sans se voir. On va mettre cette vidéo sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Si vous voulez aller la voir et aller voir ses retrouvailles. Merci à vous, Martin Lange. L'histoire du jour de Christophe Ondelat, c'est le fruit d'une longue enquête sur un meurtre resté longtemps impuni, celui de la postière Catherine Burgot en 2008 à Montréal, la Cluse, dans l'Ain, un crime longtemps attribué à l'acteur Gérald Thomassin. Ondelat raconte à 14h sur Europe 1 et vous retrouvez l'histoire du jour dès maintenant en podcast sur europe1.fr.
Europe 1.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver, notre planète à suivre sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 6h05. Fanny Agostini pour Notre Planète est avec nous avec des solutions chaque matin pour changer la donne sur l'environnement. Fanny, on parle de la pollution ce matin dans nos villes. Et vous avez repéré que cette pollution a baissé notamment grâce à un dispositif très particulier, les rues scolaires qui se sont multipliées.
Oui, alors les rues scolaires, ce sont des rues qui, parce qu'une école s'y trouve, sont fermées temporairement et à certaines heures aux véhicules motorisés. L'idée est née dès 2004 en Belgique et s'est formalisée dans la loi en 2018. Le raisonnement derrière ces rues scolaires est de déclencher un vrai cercle vertueux. En interdisant systématiquement la circulation des voitures sur les créneaux horaires scolaires, les abords des écoles deviennent alors plus sûrs, les parents sont de plus en plus rassurés et donc susceptibles de laisser leurs enfants faire les trajets vers l'école à pied, à vélo ou en trottinette, et donc moins enclin à prendre la voiture pour les amener ou les récupérer, diminuant ainsi la pollution liée au trafic et aux arrêts à l'école. Des rues qui, une fois vides de voitures, sont de surcroît végétalisées, améliorant encore un peu plus la qualité de l'air dans le quartier. Et avec le Covid, eh bien, elles se sont multipliées ces rues un petit peu partout, notamment au Royaume-Uni et en Belgique, car dans le contexte sanitaire actuel, cela permet d'éviter les agglutinements à la sortie des écoles.
Et on arrive à mesurer l'impact de ce type de mesure ?
Oui, on commence à avoir un retour scientifique là-dessus. Les études d'impact nous viennent surtout d'Angleterre. Dans un échantillon de 35 écoles, 18% des parents automobilistes auraient réduit leur usage de la voiture grâce aux rues scolaires. La pollution par les oxydes d'azote a elle aussi chuté et le plébiscite parental est sans conteste. 81% des parents sont satisfaits de la disposition et 76 d'entre eux souhaitent la voir se généraliser.
Et en France, chez nous, ça marche aussi ces rues scolaires ?
Oui, les retours sur ces rues scolaires sont très positifs, au point que certains maires leur ont donné une place importante dans leur campagne municipale. Et depuis la rentrée scolaire dernière, la pratique prend vraiment de l'ampleur. Paris a piétonnisé les alentours de 80 écoles, Lyon l'a fait pour 23 d'entre elles et Lille pour 7. Alors en attendant les études plus poussées sur l'impact écologique, sachez que dans certaines écoles, 91% des parents ont manifesté leur approbation de l'idée de sa pérennisation au-delà du Covid. On a cependant encore quelques efforts à faire. Au Royaume-Uni, qui devance largement tous les pays dans la manière de faire, eh bien, 350 rues scolaires de plus ont déjà été déployées rien que depuis avril 2020.
Merci à vous, Fanny Agostini, sur Europe 1 chaque matin, 5h58.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Ça y est, les bienvenus si vous nous rejoignez en ce lundi 19 avril. Nous sommes à peu près à un an, ça y est, de la présidentielle. Hein, et le timing n'est sans doute pas innocent. Emmanuel Macron lance une offensive sur la sécurité. Longue interview à la une du Figaro et déplacement aujourd'hui pour annoncer des renforts dans la ville de Montpellier. Montpellier qui faisait partie des villes test au début du quinquennat pour lancer la fameuse police de sécurité du quotidien, les quartiers de reconquête républicaine. Alors au-delà des annonces, quel bilan aujourd'hui ? Je reçois à 6h40 le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, qui accueillera donc le chef de l'État tout à l'heure. Tous vos rendez-vous d'ici 7h, on retournera en Israël où les masques ont disparu des rues. Vous verrez la revue de presse internationale et puis dans la partition ce matin. Riders on the storm. Riders on the storm. Le dernier album de Jim Morrison, c'était 3 mois avant sa disparition, il y a 50 ans, tout juste. Les Doors, LA Woman, dans la partition, le récit Omblin Roche tout à l'heure, 6h20. Et Laurent Cabrol pour la météo.
Avec d'abord un constat, et ce seront des températures presque positives aujourd'hui, puisqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pratiquement plus de gelée. J'en ai vu vers Sologne, je les ai notés sur mes cartes, hein, en Sologne, vers Beauvais, vers Ambérieu, Luxeuil, il fait encore froid. 1 degré à Creil, toujours, enfin, dans Banloise, 2 degrés à Caen, 3 à Bourges en ce moment, comme à Lille, 4 à Bordeaux, 5 à Cognac, 6 à Lyon, 7 à Paris, 8 à Brest et 9 à Marseille. Donc voilà pour les températures qui, bien sûr, remontent maintenant. On l'a dit et redit, c'était prévu, tout est dans les clous. La semaine s'annonce douce, faut bien le dire, douce, et sèche malheureusement, parce qu'on a encore bien sûr besoin d'eau, mais enfin elle sera dans l'ensemble, non pas d'un grand soleil permanent, c'est pas vrai. D'ailleurs aujourd'hui nous aurons des nuages sur les frontières du nord et du nord-est, et nous aurons en même temps un peu agité sur le massif alpin, avec des températures maximales de 15 à 20 degrés, mais dans l'ensemble la semaine sera quand même beaucoup plus supportable que celle que nous avons vécue.
Bon, beaucoup moins froid. À tout à l'heure, merci Laurent.
Europe Matin, le 5-7.